Père, ta parole nous est offerte et pourtant elle nous résiste souvent. Elle est forte mais aussi tellement fragile devant toutes les priorités que nous mettons à sa place. Elle nous éclaire et pourtant parfois elle ne brille que devant nos pas au fur et à mesure que nous la mettons en pratique. Elle est tout près de nous. Et pourtant, elle vient de si loin, puisqu'elle était auprès de toi avant que le monde fût créé. Père, ce matin, renouvelle notre écoute de ta parole. Donne-nous les oreilles pour l'entendre et le cœur pour la mettre en pratique. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ta parole devenue chair. Amen. Alors, je précise juste, c'est bien sûr une prédication de Mathias, comme d'habitude, et j'essaye de vous la transmettre comme moi je l'ai comprise. Donc nous lisons dans Matthieu, au chapitre 8, du verset 18 à 28. Matthieu 8, 18 à 28. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Gens de peu de foi. » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent ?» Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Je continue la suite. Ils lui crièrent « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et on connaît la suite, les pourceaux sont tombés à la mer. Donc, Jésus donne l'ordre à ses disciples de passer sur l'autre rive. Ils obéissent, bons disciples, et c'est la catastrophe. Peut-être qu'il y en a eu un pour se dire « si j'avais su, j'aurais pas venu ». Si nous voulons suivre le Seigneur, notre vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Et plusieurs d'entre nous ici savent que même si on est au Seigneur, même si on l'est de tout notre cœur, si on l'aime de tout notre cœur, même s'il est au centre de nos vies, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et nous pouvons même avoir des frayeurs que nous n'aurions pas connues si si nous étions restés tranquillement chez nous. Mais le Seigneur est là, et nous allons voir de quelle manière. L'enseignement sur la foi que les disciples ont reçu dans ce texte, ce jour-là, il est valable aussi pour ceux qui ne sont pas disciples de Jésus. Parce que là, les disciples, on est bien d'accord, ils ont appris une leçon, pas seulement avec leur tête. Ils ont appris une leçon avec leur corps, dans leurs tripes. On les voit en effet sidérés de peur. Et ils ont frôlé la mort de près. Vous vous souvenez, les vagues qui étaient par-dessus le bateau. Et pendant ce temps-là, Jésus, il dormait. Alors dans le récit parallèle de Marc 4, on voit un détail intéressant sur la façon dont Jésus dormait. Il est dit, et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Alors ça, faut le faire. Alors moi, j'ai jamais fait de bateau, mais j'imagine bien que quand le vent hurle dans les voiles, que les vagues dépassent le bord, que ça fait du roulis pas possible, qu'on a les traits complètement retournés, ça éclabousse de partout, et pendant ce temps-là, Jésus dort la tête sur un coussin. Tiens, tiens. Là, il a trouvé où reposer sa tête. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus vient juste de dire, c'était un scribe qui voulait le suivre là, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et là, au milieu de la tempête, des embruns, de la vague, etc., eh bien, Jésus dort sur un coussin. Et visiblement, c'est un lieu qui lui convient bien. Ses disciples ont été obligés de le réveiller, nous dit le texte. Les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, nous disent tous qu'ils ont été obligés de le réveiller. Et Marc et Luc précisent quelque chose qui semble à peu près inutile. Il se réveilla. Si ce détail semble une lapalissade, il est pourtant introduit ici pour nous renvoyer à la résurrection de Jésus. Parce que c'est le même verbe qui sera utilisé pour parler de Jésus se réveillant d'entre les morts. En fait, il est dit en grec « Jésus ressuscitant ». Les disciples le réveillent « Jésus ressuscitant ». Jésus dormant en pleine tempête, c'est Jésus dans sa mort, dans sa mort. Jésus n'a pas d'endroit sur terre pour reposer sa tête, mais il en a trouvé un. Dans sa tombe, chez les morts. Voilà le Jésus qui est avec nous pour toujours, celui qui nous justifie. Jésus, crucifié, mort et enterré. C'est ce Jésus-là qui est avec nous tous les jours. On va s'arrêter là-dessus parce qu'on sait bien qu'il est ressuscité aussi. Mais Jésus, il est crucifié, il est mort, il est enterré, c'est notre confession de foi, et c'est de cette façon-là qu'il vient à notre aide. Alors voilà pourquoi elle reproche à ses disciples leur peu de foi. D'après Marc et Luc même, Jésus leur demande « Comment n'avez-vous pas de foi ? Où est votre foi ?» Et nous savons qu'il est encore obligé aujourd'hui de nous poser cette question à nous. Où est notre foi ? Face à nos angoisses, quand on est au plein milieu de la tempête, où est notre foi ? Nos émotions sont légitimes. On sait bien que l'être humain, il est fait de corps, de chair, d'un esprit et d'émotions. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et la peur en est une. La peur est une émotion. Comment ne pas avoir peur quand vous êtes sur une mer déchaînée et que vous risquez de couler ? Les textes des évangiles insistent sur l'aspect démesuré de la tempête. Matthieu parle même d'un séisme marin, d'un tsunami. Marc parle d'un grand tourbillon de vent. particulièrement inhabituel. Alors, on sait aujourd'hui que les tempêtes sur le lac de Tibériade peuvent surgir en quelques minutes. Tout était calme, et quelques minutes après, il y a un phénomène climatique qui, particulier à cet endroit, qui fait que les tempêtes sont démesurées. Parce que les vents proviennent de plusieurs points, se rassemblent subitement, et ça crée de puissants tourbillons qui soulèvent vraiment la mer. On le sait. Donc, c'est pas un truc psychologique, comme diraient certains, symbolique. Hein, c'est bien quelque chose. Les tempêtes sur le lac de Sibériade, on sait que ça existe. Mais ici, cette tempête inhabituelle, elle semble avoir une autre origine. Elle semble provoquée par l'ordre de Jésus de passer sur l'autre rive. Satan se déchaîne. Jésus va le chercher sur son terrain. Parce que je vous ai lu la suite. Qu'est-ce qui se passe quand il est sur l'autre rive? Voilà, il y a deux démoniaques qui s'approchent. Ils avaient une force herculéenne. Personne n'osait les approcher. Et Jésus va les libérer de leur obsession de la mort. Et ça, Satan n'aime pas. Jésus est allé les chercher sur son terrain. Et c'est pourquoi il déchaîne. Et sur la croix, Jésus est allé chercher le prince de ce monde. Et il est allé en toute connaissance de cause. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jardin de Gethsémané? Ben, ils ont paniqué. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ils ont fui la tempête en prenant leurs jambes à leur cou. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Comme dans le bateau, il est resté calme. Il est allé au-devant de la tempête, en sachant que c'était lui-même qui l'avait déchaîné. Et il est allé chercher le diable sur son terrain. Jésus y a laissé sa vie, et nous, nous y avons trouvé la nôtre. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui vivra la vie éternelle. Le chrétien, c'est une personne qui vit dès aujourd'hui la vie après la mort. La vie du Christ ressuscité. Nous ne sommes pas des zombies, des morts vivants. Nous sommes des personnes qui vivent de la vie du ressuscité. Et justement, à cause de cela, le chrétien avance qu'à un cas dans la foi. Comme Pierre qui marche sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Au bout de quelques pas, il coule. Jésus est souvent obligé de revenir nous donner la foi. Mais il ne se décourage pas. Et quand on en a besoin, ben, il nous la redonne. Parce qu'elle est là. C'est lui qui nous l'a donnée. Alors mon cher époux nous dit que souvent, avec son raisonnement, il a longtemps tordu cette promesse. En se disant, puisque c'est lui qui donne la foi, moi je n'ai rien à faire. On sait tous qu'il y a beaucoup de belles paroles dans la Bible qu'on peut tourner, tordre à notre détriment. En vérité, le récit de la tempête apaisée est un très bel enseignement sur la foi. Jésus nous donne la foi, et justement parce qu'elle est à nous, parce qu'il nous l'a donnée, elle est à nous, et nous devons nous en servir. Je répète, c'est Jésus qui nous donne la foi. Ok. Mais parce qu'il nous l'a donnée, elle est à nous, et après on doit s'en servir. Je me souviens que j'avais dit ça à un de mes fils, qui me disait, ouais, je suis intelligent. Ça, c'est un cadeau. Maintenant, tu dois t'en servir. La foi, c'est pareil. Et beaucoup d'autres grâces. Contrairement à ce que nous disent certaines traductions, Jésus ne reproche pas à ses disciples d'avoir peur. On l'a déjà dit, la peur, ça fait partie des émotions normales de notre humanité. Jésus lui-même a eu peur. D'après Matthieu et Marc, Jésus demande à ses disciples pourquoi ils ont été peureux. On peut aussi traduire, alors le mot grec c'est « déloï », on peut traduire par « peureux » ou par « lâche ». C'est pas « pourquoi avez-vous peur ?» C'est « pourquoi êtes-vous peureux ?»« Pourquoi êtes-vous lâche ?» Ça me faisait penser, quand j'ai lu cette prédication, à Paul qui disait « quand vous êtes en colère, ne péchez pas, ne restez pas sur votre colère. » Ce que Paul dit, c'est Ce qui est mal, c'est pas d'être en colère, c'est une émotion. Et c'est humain. C'est de rester en colère, de cultiver la colère, d'être coléreux. Mais là, c'est pareil. Jésus ne reproche pas la peur, il reproche d'être peureux. Alors, comment faire quand on a peur en suivant Jésus ? Peur devant les souffrances, peur devant les montagnes de l'impossible, peur devant tout ce qui se dresse devant nous quand nous lui obéissons. Eh bien, c'est de ne pas rester dans cette peur, de ne pas s'y installer. Parce que Jésus a donné le remède, c'est la foi. Quand est-ce que Jésus a donné la foi à ses disciples ? Alors, moi, ça m'a semblé un peu compliqué, j'espère que je vais pouvoir le redire tel qu'il l'a pensé. Quand est-ce que Jésus a donné la foi à ses disciples ? L'évangile de Jean insiste sur l'heure de la glorification de Jésus. Quand est-ce que Jésus a été glorifié ?
Transfiguration.
Eh non, à sa mort. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'ai... Oui, il a été glorifié à sa transfiguration, bien sûr. Matthias parle ici de la glorification à l'heure de sa mort. Et c'est à l'heure de sa mort... Enfin, pour lui, l'heure de sa mort, c'est en même temps l'heure où la foi authentique a été donnée. Voir Jean 19:35, pour ceux qui veulent reprendre des notes. Donc, ça veut dire que Jésus donne la foi à l'heure de sa mort, quelques années plus tard, et aujourd'hui, il met en doute la foi de ses disciples avant que cette heure ne vienne. On pourrait penser que Jésus est pervers. Il ne leur a pas encore donné, mais il leur reproche de ne pas l'avoir. Eh bien, c'est que sur le lac de Tibériade en furie, Jésus considère déjà ses disciples comme propriétaires de la foi. C'est pourquoi il leur demande « Où est votre foi ?» Jésus est le seul à pouvoir nous donner la foi et c'est justement pour cela qu'il peut nous demander « Où est votre foi ?» Il le sait qu'on l'a. Des fois, nous, elle est bien cachée au fond de nous-mêmes, on ne le sait pas nous-mêmes. Lui, il le sait. Et donc, par sa question, Jésus nous fait prendre conscience de la foi qui est en nous. Et parfois, dont même nous ne soupçonnions pas l'existence. C'est Jésus qui a déclaré lui-même que la foi n'est pas visible, même à nos propres yeux. Matthieu 17, « Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. » La foi ne se trouve pas en nous regardant le nombril, en nous demandant si on est bien tout équipé, si on est bien un bon chrétien, si on a bien tout fait, si on a bien répondu au quiz de Jésus. Non. La foi ne se trouve pas en regardant le nombril, elle se trouve en écoutant Jésus. Alors on a des exemples de chrétiens qui refusent d'écouter leur peur et continuent d'écouter leur foi. On va aller dans des extrêmes. Au Nigeria, il y a des chrétiens qui continuent de se réunir alors que leur église a été réduite en cendres, leur pasteur tué, leur fille kidnappée. Ils ont peur, mais ils préfèrent écouter leur foi en Jésus. Ingrid Betancourt, attachée au fin fond de la jungle, et qui a continué d'écouter sa foi et de ne pas désespérer, et de ne pas être rentrée dans la haine. Le rabbin Eisenberg raconte l'histoire d'un juif pendant la guerre. Un SS avait sorti son revolver en disant « Je vais te tuer ». Et le juif, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? « Tu me tueras quand Dieu le voudra ». Le SS a tiré et la balle s'est coincée dans le canon. Le juif a tué le SS après et il s'est enfui. Et puis en Afrique aussi, il n'y a pas très longtemps, des rebelles ont aligné des chrétiens qu'ils ont mis en joue. Et les balles se sont toutes restées bloquées dans le canon. Alors que quand ils tiraient en l'air, les balles sortaient. Mais devant les chrétiens, elles ne sortaient pas. Nous avons un Seigneur puissant qui commande à la création tout entière. Et ça, les disciples l'ont bien vu. Quel est celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. Eux, ils ont bien reconnu que notre Seigneur tout-puissant commande à la création. Et même dans Ésaïe 54, au verset 16, le Seigneur Dieu raille sur Israël en lui disant, C'est moi qui crée les fabricants d'armes. Je suis allée vérifier, j'ai dit, c'est pas possible quand même. Eh bien si, c'est bien écrit comme ça. C'est moi qui crée les fabricants d'armes, mais c'est moi aussi qui crée le destructeur de ces armes. Alors avec le Seigneur, nous pouvons vaincre la peur que nous vivions ou que nous mourions. Parce que bien sûr, pour tous les chrétiens et tous les juifs, les bols ne sont pas restés bloqués dans les canons. Hein ? Le fait que nous soyons chrétiens ne nous garde pas de la mort, même de la mort sauvage. Nous pouvons vaincre la peur dans notre vie quotidienne, en commençant à exercer notre foi dans des circonstances moins dramatiques. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on garde ? Nous pouvons exercer notre foi, car pour le Seigneur, il n'y a aucun doute. Il nous l'a donné. Et il l'a donné en passant de l'autre rive. Il a quitté la rive ouest du lac pour gagner la rive est, le pays des Gadaréniens. Autrement dit, Jésus est passé du côté Israël au côté nation, et il a fallu sa mort et sa résurrection pour cela. Ça ne s'est pas fait de façon naturelle. Mais tel est le projet de Dieu, donner la foi non seulement à Israël, mais aussi aux nations. Et ce don de la foi lui a coûté son Fils unique. Amen.